Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette émission Parole au présent et merci pour votre fidélité. Ce matin, je suis en compagnie de Francine Robert, qui est professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Francine Robert, une des caractéristiques du carême, c'est que nous avançons, nous marchons, c'est une marche en fait, avec Jésus vers Jérusalem où Jésus sera arrêté et mis à mort. Et on l'évoquait justement, cette marche, à notre émission de la semaine dernière. Et je pense qu'avec ce récit de la transfiguration, eh bien, on revient sur ce thème de la route, quoi.
Oui, en effet, parce que le récit de la transfiguration, dans Luc, il est placé un peu avant le départ de Jésus de Galilée, au chapitre 9. Et d'ailleurs, on verra dans ce récit que Moïse et Élie parlent justement avec Jésus de son exode, c'est-à-dire de son départ, ce qui est propre à Luc.
Et vous nous proposez ce matin de regarder ce chemin aussi, hein, sous l'angle de la dimension prophétique de Jésus. Je pense que vous allez regarder Jésus dans sa dimension de prophète.
Oui, effectivement, parce que c'est une caractéristique de l'Évangile de Luc de présenter Jésus non seulement comme le Messie, comme le Fils de Dieu, mais aussi comme prophète. Je vous rappelle, par exemple, un texte qu'on ne trouve que dans l'Évangile de Luc lorsque les pharisiens viennent dire à Jésus « Hérode te cherche » et que Jésus répond « Non, je peux pas m'arrêter tout de suite, il faut que je marche aujourd'hui, demain, le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure hors de Jérusalem. » Donc, Jésus se définit lui-même comme prophète et chez Luc, c'est bien associé au thème de la passion et de la mort de Jésus. On pourrait dire, puisque nous nous orientons vers Pâques, on pourrait dire que chez Luc, il y a cette originalité de présenter la mort de Jésus comme celle du prophète rejeté, plutôt que dans sa valeur, disons, sacrificielle, un aspect qui est davantage mis en évidence dans Matthieu et Jean. Luc ne nie pas cet aspect, mais il insiste davantage sur la mort du prophète. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur cet aspect-là au cours des prochains dimanches et un peu aujourd'hui.
Bien, alors nous allons immédiatement lire la page d'Évangile qui est proposée pour ce deuxième dimanche du carême. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie. Apparus dans la gloire, ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne. Francine Robert, je vous propose que l'on commence par le centre de gravité du récit, qui sera en fait la parole sur Jésus aux disciples.
Oui, la parole, donc la voix qui se fait entendre, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Celui que j'ai choisi, qu'on lit dans la traduction liturgique, est une bonne traduction, mais ça traduit un seul mot qu'on pourrait traduire par l'élu. Celui-ci est mon fils, l'élu. écoutez-le. Et non pas celui-ci, mon fils bien-aimé, comme on l'entend chez Marc et Matthieu. Alors, l'accent est mis sur le fait que Jésus est le choisi ou l'élu. Et c'est un thème, l'élu, qui nous oriente sur la mission. Par exemple, lorsque Luc parle de choisir ou d'élire, c'est le même mot en grec, c'est choisir les 12 qu'il va nommer apôtres. Quand les 11 vont se trouver un 12e dans les Actes des apôtres, je rappelle que ce livre est écrit aussi par l'évangéliste Luc. Donc, quand les 11 se trouvent un 12e, c'est ils élirent un 12e. Ils élirent les 7 en acte 6, les diacres. C'est un mot de la même famille pour Paul, dont le ressuscité dit « c'est celui que j'ai choisi ou élu ». C'est un vocabulaire typique de Luc qui aime cette notion de du choisi de Dieu. Il y a des choisis de Dieu. Et toujours ce vocabulaire est orienté vers la mission. Alors, ce qui est intéressant, puisque nous lisons le récit dit de la Transfiguration en contexte de carême, c'est que l'autre endroit où Jésus est désigné comme l'élu ou le choisi, c'est justement lorsqu'il est en croix et que les chefs du peuple ricanent, se moquent, en disant « il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu ». Et le lectionnaire traduit bien ici « l'élu ». Donc, vous voyez qu'il y a du récit de la Transfiguration vers le récit de la mise en croix, un lien très clair qui est fait par Luc. Voilà où aboutira la mission de l'élu. Et il est celui qu'on désignera à la fois le Christ de Dieu et l'élu, tantôt comme croyant, tantôt comme pour s'en moquer, lorsqu'il est en croix. Donc, chez Luc, on pourrait dire que le récit de la Transfiguration est davantage lié à la mission de Jésus. On pourrait dire c'est le récit de la révélation de l'élu, plutôt que de l'appeler le récit de la Transfiguration, avec un renvoi clair vers la Passion. J'ajouterais aussi que la façon dont Pierre va s'adresser à Jésus un peu avant la voie du ciel, en disant « maître, faisons trois temps », le mot « maître » qui est là, « épistatès », qui est propre à Luc aussi, toujours, signifie le chef. Hein? C'est pas le maître au sens du professeur, c'est pas didascal, qu'on traduit aussi par maître, mais c'est le chef, celui qu'on doit suivre. C'est le chef de mission, c'est Moïse qui conduit le peuple, ce sont les prophètes comme leader spirituel du peuple. C'est ce mot-là que Luc met ici dans la bouche de Pierre. Donc, ça nous oriente carrément vers une lecture du récit au service d'une compréhension de la mission de Jésus, plutôt que de la révélation de son identité divine, ce qu'on a comme lecture dans Marc et Matthieu.
En ce sens, le titre, ouais. Vous pourriez proposer un autre titre,
oui,
pour ça.
Oui, comme la révélation de l'élu, par exemple. Oui, d'autant plus que, j'anticipe un peu, je le mentionne tout de suite, le mot que l'on traduit par transfiguré dans les évangiles de Marc et de Matthieu, Luc l'a omis de son récit. Okay. C'est en grec métamorpho, notre mot français métamorphosé.
Et Luc ne l'emploie pas.
Et je vous ferai remarquer qu'en français, on ne l'emploie pas non plus.
Non plus.
On dit pas Jésus a été métamorphosé devant eux quand on lit l'évangile de Marc,
ouais.
Mais a été transfiguré. Probablement qu'on a les mêmes réticences que Luc. Les métamorphoses de Dieu ou des dieux, c'est courant dans la littérature païenne. Parfois parce que les dieux se montrent sous un autre jour pour se faire mieux percevoir, parfois pour jouer des tours aux êtres humains. C'est les caprices des dieux, on est en plein paganisme, alors Luc évite ce mot-là. D'où il n'y a même pas de transfiguration à proprement parler.
Alors oui, est-ce qu'on est prêt à y aller?
Oui, donc on revient au tout début du récit.
Début.
Le lectionnaire de la liturgie a sauté le début, ça se comprend. C'est il advint environ 8 jours après ses paroles. On l'a sauté puisque le « ses paroles » renvoie au récit précédent dans l'évangile de Luc, qui n'était pas le récit de dimanche dernier. Mais je veux juste signaler que ces paroles, ce sont justement les paroles, d'une part, de Pierre qui répond à la question « Qui dites-vous que je suis? Tu es le Messie de Dieu ou le Christ de Dieu? » L'expression donc qu'on retrouvait à la croix avec le Christ de Dieu, l'élu. Et tout de suite après cette réponse, Jésus a enchaîné avec la première annonce de sa passion « Le Fils de l'homme sera rejeté et tué ». Donc, on est en contexte de passion claire en introduisant le récit par la mention de ces paroles qui viennent d'être prononcées dans l'Évangile de Luc. Jésus monte sur la montagne pour prier et tandis qu'il priait, donc la répétition de la prière, un accent très typique de Luc qui insiste beaucoup sur la prière de Jésus à plusieurs endroits de son évangile où il est le seul à le mentionner, par exemple avant le choix des 12, entre autres aussi lorsque Jésus sort de l'eau après son baptême, Jésus prie, et à quelques autres endroits donc propres à Luc. Ça nous place dans un contexte de relation personnelle de Jésus avec Dieu. Dieu et Jésus sont en relation dialogale, je dirais. Jésus parle à Dieu. Je vous rappelle que ça nous place aussi devant l'altérité entre Dieu et Jésus. Il ne se parle pas à lui-même, il prie Dieu. Ça ne nie pas, là encore, l'identité divine de Jésus, mais c'est pas là-dessus que Luc insiste. En nous le montrant, parlant à Dieu, il nous le montre comme un des nombreux envoyés de Dieu qui ont une relation spirituelle forte à ce Dieu qui est leur moteur, leur motivation pour l'action. D'ailleurs, dans toute la suite du récit, c'est Dieu qui agit. Ce ne sera pas Jésus qui se métamorphose. D'ailleurs, il n'y a pas de métamorphose, mais ce sera toujours Dieu qui va révéler quelque chose de Jésus. À la place de la métamorphose, le récit continue avec son visage apparu tout autre. Ceci n'est pas dans Marc, donc c'est un ajout de Luc.
C'est vraiment propre à Luc.
C'est-à-dire, on le trouve aussi chez Matthieu, mais ça a une autre signification dans le contexte. Il faut vraiment situer le récit, comme toujours d'ailleurs, dans l'ensemble du livre où on le prend. Les récits ne sont pas des orphelins. Ils ont une famille, et leur famille, ce sont les autres récits du même évangile. Or, le visage chez Luc, c'est aussi un élément toujours utilisé en fonction de la mission. Par exemple, à propos de Jean-Baptiste, Luc nous dit en 7:27, c'est celui dont il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant ta face » ou « devant ton visage », c'est le même mot en grec, « pour préparer ton chemin devant toi ». Vous voyez, c'est donc « devant ton visage », mais ton visage, c'est ta mission, pour préparer ton chemin de mission devant toi. Et surtout, un texte propre à Luc sur le visage de Jésus qui est toujours surprenant lorsqu'on le lit en traduction littérale, c'est 9:51, c'est le début du chemin de Jésus vers Jérusalem, le chemin étant un des deux thèmes qu'on abordera durant les dimanches du carême. Je vous le lis, c'est « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus durcit son visage vers Jérusalem. » On traduit pas comme ça, habituellement on traduit « Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. » « Durcit son visage », c'est une référence à un passage d'Isaïe 50, verset 7, où il est question du serviteur qui va à la mort. C'est aussi des passages d'Isaïe qui seront réutilisés dans la Passion. Donc, on voit que son visage apparaît tout autre sur la montagne, dans ce moment de gloire, mais ce sera ce même visage qu'il faudra durcir ensuite. Vers les aléas de la mission prophétique qui tournera mal finalement. Alors, on sent bien qu'il y a là un lien encore à faire avec la Passion.
Le verset suivant, il envoya devant son visage.
Devant son visage, des messagers à 9:52, vous avez raison de le mentionner, qui se mirent en route et on ne le reçut pas parce que son visage se dirigeait vers Jérusalem. On voit bien là que c'est le visage de Jésus utilisé, je dirais, comme, pas le visage, mais le mot, bien sûr, utilisé vraiment pour rappeler le chemin prophétique de Jésus vers la Passion.
Alors, je rappelle donc qu'il s'agit de deux versets qui sont situés au chapitre 9, versets 51 et 52.
Oui, et 53 même.
Voilà. Mais évidemment, il y a une question de traduction. Là, on s'entend alors que...
Mais habituellement, une Bible avec des notes en bas de page le mentionne à 9:51, littéralement, voilà. Donc, sur notre montagne du récit de ce matin, le visage de Jésus devient autre.
Ah, voilà donc la traduction, la manière avec laquelle Luc traite cela.
C'est ça. Le visage de Jésus devient autre. C'est sûr que là, il y a quelque chose de glorieux ici. Mais c'est aussi ce qu'on retrouve, par exemple, dans Acte 6 à propos d'Étienne, qui vient de témoigner devant le Sanhédrin du fait que Jésus a révélé un certain visage de Dieu et qu'il a été tué pour cela. Étienne, tous les yeux sont fixés sur lui et son visage leur apparut comme celui d'un ange. C'est comme si Dieu manifeste son accord avec ce qui vient d'être dit. Ça va être pareil pour Jésus. Et je vous rappelle que Étienne, acte 6 et 7, va mourir. Hein, ouais, on est dans le grand discours d'Étienne qui va être rejeté, ce discours, et le type qui le proclame, Étienne.
C'est ça, le premier martyr.
C'est le premier martyr de l'histoire de l'Église.
Donc, Luc le traite de la même façon, finalement.
Oui, c'est ça. Un autre visage comme ça, qui est devenu autre à cause de la présence de Dieu qui motive sa mission, c'est Moïse. Et on le voit au chapitre 34 du livre de l'Exode. Je pense qu'on n'aura pas le temps de le lire. Bon. Claude, si vous m'excusez.
Alors, on va inviter ceux qui nous écoutent à aller à leur livre, Bible, au chapitre 34 du livre de l'Exode, tout simplement.
Les versets 28 à 35,
parce qu'on voit le temps passer.
Où on mentionne que le visage de Moïse rayonnait parce qu'il avait parlé à Yahvé. Alors, là aussi, c'est intéressant puisque ça nous place, ça nous propose de voir Jésus dans la succession des envoyés de Dieu, Moïse, qui va apparaître tout de suite après dans notre récit, Élie, qui s'en vient aussi, et plus tard, les apôtres, qui reprennent la même mission, dont Étienne, qui sera le premier à mourir au nom de cette mission à la suite de Jésus. Alors, c'est clair que derrière notre récit de Jésus sur la montagne, il y a la tradition du Sinaï aussi, hein. Moïse était monté sur la montagne, il y a eu la nuée, on se retrouve avec les traditions donc du Sinaï, où Moïse était monté avec trois de ses parents, justement comme Jésus monté avec trois de ses disciples.
Et on trouve ça au livre de l'Exode, chapitre 24.
Oui, effectivement.
Hein, où Moïse, comme vous dites, monte lui aussi avec trois de ses disciples.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Alors, donc... Moïse et Élie, si on continue notre récit, apparus en gloire. Donc, je vous signale que la gloire n'est pas seulement la gloire de Jésus, mais aussi la gloire de Moïse et Élie. En fait, c'est la gloire de ni l'un ni l'autre des trois, c'est la gloire de Dieu qui vient cautionner la mission des uns et des autres, et plus particulièrement situer Jésus dans la série de ces hommes qui ont été des choisis de Dieu. Ce qui nous l'indique très clairement, c'est cet ajout typique propre à Luc. Les deux, Moïse et Élie, parlent avec Jésus de son exode qui, dit le lectionnaire, allait se réaliser à Jérusalem. Pour être plus près encore du mot qui est là, c'est l'exode qui va s'accomplir à Jérusalem. Je tiens, moi, à ce mot « accomplir ». C'est l'accomplissement des Écritures. C'est un terme qui est fréquent dans les quatre évangiles. Donc, Jésus accomplit ce que Moïse et Élie viennent d'annoncer, cet exode à Jérusalem, qui désigne aussi bien sa mort que sa résurrection et son enlèvement. Donc...
Son enlèvement ou son élèvement?
Son ascension.
Je pense que j'avais employé le terme enlèvement.
Enlèvement, oui. C'est à cause du fait que c'est raconté comme l'enlèvement d'Élie. Hein.
Ah, bon.
Jésus est présenté comme Élie dans l'évangile de Luc. Ça aussi, on pourra peut-être trouver un dimanche pour en parler. Donc, c'est vraiment le thème de l'accomplissement, un peu comme Jésus dira lorsque ressuscité, il apparaîtra au groupe élargi des disciples. Il fallait que tout soit accompli de ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Donc, il s'agit bien de l'accomplissement de cet exode. Bon, pour revenir un petit peu sur Moïse et Élie qui sont là avec Jésus, d'habitude, on dit à bon droit, Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. C'est vrai particulièrement dans les récits de Marc et Matthieu, et ça dit bien sûr Jésus comme envoyé de Dieu et comme Messie accomplit à la fois la loi et les prophètes. C'est vrai tout ça. Mais chez Luc, on pourrait dire que Moïse est présenté aussi comme prophète. Et nous, on n'est pas habitués de le voir comme prophète, mais plutôt comme auteur de la loi. Mais chez Luc, on a à d'autres endroits que je ne mentionnerai pas ici. La présentation de Moïse comme prophète lui aussi. Par exemple, dans Deutéronome 18, là, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il les écoutera. » Pensez à la voix qui va dire tout à l'heure, « Écoutez-le. » Deutéronome 18, 15 et 18. Étienne aussi va présenter Moïse comme prophète, comme leader dans son discours en actes 6 et 7. et leader du salut de Dieu, hein, leader du peuple qui conduit le peuple dans le désert, mais au-delà du désert vers la terre promise. Donc ça nous rappelle encore que Jésus est dans la foulée de Moïse, non pas comme Moïse auteur de la loi, mais comme Moïse prophète et chef vers le salut, comme Élie prophète et chef vers le salut. Jésus est situé ici comme prophète et chef au sens de leader vers le salut. Et c'est à ce titre-là que la voix dira aux disciples, lui, écoutez-le, suivez-le. Donc, ça nous oriente vraiment vers la mission de Jésus. Si je continue avec le récit, on a la mention du sommeil des disciples. Ça aussi, c'est propre à Luc. C'est un renvoi discret, mais efficace, à l'agonie à Gethsémani, ou dans les trois évangiles qui nous racontent ce récit de Jésus à Gethsémani,
les disciples sont endormis.
Ouais. C'est-à-dire, sont à la fois présents et absents par rapport à ce qui se passe. Hein. Alors, chez Luc, qui ménage un peu l'image des disciples à Gethsémani, Luc va préciser, ils sont endormis de tristesse. Mais n'empêche, ils sont endormis. Mm-hmm. Hein. Et c'est un peu aussi pour suggérer, je pense, chez Luc, l'état second des disciples, hein. Ce genre de révélation où Dieu se montre d'une façon un peu plus manifeste, dirions-nous, on n'y a pas vraiment accès dans la vie guillemets réelle, et donc ça suggère un état second. Les disciples sont dans un état marginal de la vie courante pour accueillir cette révélation. On trouve ça aussi assez fréquemment dans l'Ancien Testament.
C'est intéressant, ça. Oui, Il y aurait toute une mission à faire sur le sommeil.
Voilà.
Mm-hmm, mm-hmm. Il nous reste peu de temps.
Oui.
Je vous laisse conclure.
Un petit mot peut-être sur Pierre qui dit « faisons des tentes ». Ça nous rappelle juste la fête des tentes, qui est aujourd'hui la fête des huttes, où les Juifs font encore des huttes. Qui commémorait la présence de Dieu au désert, la Shekinah, la tente de la rencontre, là où Dieu était manifeste et accompagnait son peuple dans la route vers la terre promise. Donc, c'est aussi une image de salut. La nuée qui arrive avec l'éclat, la lumière, la gloire qui précédait, c'est le kit, si je peux me permettre, le kit symbolique classique des théophanies. Les effets spéciaux du temps, disons, pour les auteurs bibliques, d'où, bien sûr, la réaction de crainte des disciples devant la présence du tout autre. La voix qui vient du ciel, que nous avons déjà commentée, alors qui prend sa place ici comme le signe clair de l'appui que Dieu donne à la mission de l'élu, du Fils. Je vous rappelle que la plupart du temps, il n'y a pas de signe du ciel. Dieu est particulièrement discret pendant la vie de Jésus. Il n'est pas toujours derrière lui pour dire aux gens « voyez, voyez, c'est lui ». Donc, il faut prendre ces moments lorsqu'ils passent, les accueillir pour ce qu'ils sont. Ici, c'est bien la caution de Dieu à Jésus. Et le récit se termine avec la mention de Jésus qui se trouve seul. Ça n'est pas... je m'excuse de contredire le lectionnaire, c'est pas « on ne vit plus que Jésus seul », il n'y a pas de verbe « voir », c'est « Jésus se trouva seul », cette reformulation est propre à Luc. Ça n'est pas le point de vue des disciples, mais le point de vue du prophète qui va se retrouver seul pour assumer sa mission. Donc, on est déjà encore là, orienté vers la passion où Jésus sera finalement vraiment dans la plus grande solitude, celle du prophète qui révèle Dieu, mais qui est rejeté par son peuple. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette image du prophète clone.
Ça va être le thème qui va nous accompagner. Là.
C'est ça. Alors, je vous laisse simplement avec cette remarque peut-être d'un récit que l'on lit habituellement avec la joie d'y reconnaître la manifestation de la divinité de Jésus. Luc nous invite plutôt à y reconnaître l'homme Jésus prophète engagé et éventuellement rejeté et assassiné. Cette image-là du prophète qui nous paraît un titre arabais pour parler de Jésus, Luc ne semble pas trouver que c'est un titre arabais. Nous aurons l'occasion d'en reparler dès dimanche prochain.
Bien. Alors, mon invité ce matin, Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. À la technique, Alain Primeau. Au microphone, Claude Julien, qui vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.